rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaut Dautuil au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Bonjour Monseigneur Légal.
Bonjour Monsieur le Directeur de Radio Présence.
Vous êtes l'archevêque de Toulouse et avec vous pendant tout ce mois d'octobre, nous parlons de la dignité de la procréation suite à la publication au mois dernier d'un fascicule de la Conférence des évêques qui s'intitule « Respectons la dignité de la procréation ». Nous avons longuement parlé la dernière fois, notamment de ce qui est de la notion de désir d'enfant et le regard chrétien du don de la vie. Et nous allions aborder, donc on parle de désir d'enfant, et aujourd'hui une des déformations, notamment vers lequel nous emmène cet avis du CCNE, est la notion du dû, c'est-à-dire ce sentiment que des personnes
droit. Droit à l'enfant par tous les moyens.
Voilà. Et comment est-ce que cette dérive du désir d'enfant vers le dû de l'enfant peut-elle intégrer le bien de l'enfant ?
C'est une des graves questions qui se posent à chacun d'entre nous. Évidemment, c'est un bien des époux d'avoir un enfant. Normalement, la fécondité est un des joyaux du mariage. Le don mutuel des époux, l'Église doit être ouvert à la naissance d'une nouvelle vie, à l'enfant, et c'est un bien pour les parents. Mais il ne faut jamais oublier que le bien premier, c'est le bien de l'enfant qui est conçu et qui va être porté et qui va naître. Et avec tout le temps de tout le processus, les processus physiques et biologiques par lesquels il va arriver à maturité et naître. Et ensuite, toute l'éducation qui le mène à l'âge adulte. Et il a besoin de tout un ensemble de conditionnements qui lui permettent justement de devenir pleinement ce qu'il est. Et le problème, c'est que si des parents veulent un enfant... Mais en mettant en premier lieu leur propre, pour eux, comme leur propre bien à eux, ça l'est aussi. Mais si le propre bien des parents est premier, c'est quelque chose qui ne colle pas.
Mais comment est-ce qu'on distingue cette volonté que ce soit premier ?
Et on parle parfois, vous savez, de mère captatrice ou de père captateur. Je ne sais pas si peut-être on dit moins ça, mais enfin, dans la manière où les parents, dans l'éducation, peuvent avoir un amour qui est un amour qui protège tellement qu'il enferme l'enfant, donc qui n'a plus sa liberté, qui n'est plus aidé dans l'acquisition progressive de son autonomie. Et à ce moment-là, donc l'enfant apparaît comme le bien des parents ou d'un parent, d'un des parents, et le bien propre de l'enfant n'est plus considéré. Et ça, c'est pas des idées en l'air. Vous savez, c'est des choses qui existent, malheureusement, plus peut-être qu'on ne le pense. Alors, l'insistance sur l'enfant comme un dû. Que quelque chose à quel j'ai droit, des droits par tous les moyens, c'est quelque chose qui contrevient à cette primauté de l'enfant. Et les législations concernant toutes ces questions de PMA et GPA, etc., ne considèrent pas suffisamment justement ce fruit de l'amour et du don réciproque des époux qu'est l'enfant et son bien à lui. Et qui doit être premier et se sauvegarder par tous les moyens.
C'est ce que vous appelez dans le fascicule les conséquences prévisibles de la prépondérance du projet parental. Ouais, c'est ça, qui passe devant.
Qui passe devant le bien de l'enfant, c'est-à-dire c'est mon enfant pour moi.
Et notamment.
Pour moi, et tout de suite. Et avec en plus, toutes les questions extrêmement difficiles avec les techniques biologiques que nous avons maintenant, un enfant tel que je le veux. Alors à ce moment-là, on voit bien que l'enfant tel que je le veux. C'est avec tous les qui soient blond ou brun, et qu'il ait les yeux ceci ou cela, qu'il ait telle ou telle taille, et qu'il ait un intelligent, bien évidemment, oui. Qu'il soit beau. Et donc on arriverait à partir des catalogues des catalogues avec les techniques qui nous
Oui,
permettraient de choisir un enfant sur Internet avec un certain nombre de critères.
c'est qu'il faut expliquer à nos éditeurs effectivement qu'il y a deux ouvertures là offertes par le CCNE. Le premier, c'est la temporalité, c'est que je peux congeler mes ovocytes et donc concevoir un enfant quand je le veux, y compris très tard. Et la deuxième chose, c'est effectivement ce que vous appelez le développement de l'eugénisme libéral, c'est-à-dire que
C'est tout à fait ce
la
que...
sélection des embryons, in vivo ou in vitro, qui pousse effectivement à l'élimination de tous ceux qui présentent la moindre plus petite anomalie prévisible. Et donc évidemment, in fine, à un moment ou à un autre, le tri.
Absolument. Et là, ça rejoint des éléments non seulement de réflexion, mais d'éthique chrétienne, véritablement, que
Oui.
l'Église n'admet pas justement l'utilisation des embryons. L'utilisation des embryons par tous les moyens, etc. Donc, il y a certaines techniques qui permettent d'utiliser des éléments embryonnaires pour telle ou telle réalité, mais pas comme la science le fait ou veut le faire. L'embryon est déjà
Une personne
une
humaine.
personne humaine.
Oui.
Et l'Église, pour redire la formule facile à retenir, l'Église protège la personne humaine dès sa conception et jusqu'à sa fin naturelle. Un embryon humain conçu, donc qui est en voie de développement, etc., est une personne humaine en évolution, mais elle est déjà, le principe de la personne humaine est déjà là.
Et c'est
Et
vrai que
donc, on ne
c'est...
peut pas se jouer avec les embryons. Alors, autre chose, évidemment, les questions des ovocytes, comme vous dites. Même, j'entendais dire récemment dans les radios qu'un des problèmes qui vont se poser dans le cas du recours, justement, à des gamètes, notamment des spermatozoïdes, parce qu'on s'aperçoit qu'on est à court de spermatozoïdes
Oui.
et la qualité même, j'ai entendu, la qualité des spermatozoïdes par rapport à seulement 10 ou 20 ans
Oui.
a beaucoup décru. Et donc, vers où va-t-on et quel genre de conception favorisera-t-on avec ça?
C'est vrai qu'on parlait la dernière fois de marchandisation. Aujourd'hui, le spermatozoïde est compris sous forme de don. Mais effectivement, s'il y a un plus grand appel et qu'il en faut plus, peut-être qu'un jour l'État viendra à
C'est ça,
acheter.
oui.
Alors là, on n'est plus dans le don de la vie, on est dans l'achat de la vie et ça devient...
Et au moment même où on constate la décroissance de qualité des spermatozoïdes, vu un ensemble de conditions auxquelles nous sommes peut-être soumises à l'heure actuelle. Non, ce qui revient à ce que nous aurons peut-être l'occasion de redire, c'est le respect de la nature, le respect de la nature sur tous ses plans.
Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu peut-être approfondir le sujet de l'embryon? Parce que aujourd'hui c'est presque rentré dans les mœurs, le fait que on féconde des embryons in vitro, et ensuite, que devient-il de tous ces embryons qui sont faits? Quelle est la position de l'Église sur ce sujet? Parce que ce sont effectivement des personnes en devenir.
Mais la position de l'Église est extrêmement claire. On n'a pas le droit de congeler des embryons qui sont déjà des personnes humaines et de les mettre comme ça en réserve et d'intervenir pour les trier ensuite, parce que c'est un crime. C'est un avortement. C'est un avortement in vitro. C'est-à-dire quand on les élimine, c'est un crime. C'est Mozart assassiné.
Mozart assassiné.
Ouais,
Effectivement.
mais oui, ça va, je pense jusque-là. Mais dès qu'un embryon est fécondé, donc il est en processus de développement pour aboutir à la naissance et ensuite à toute l'éducation, comme j'évoquais tout à l'heure, et au nom de qui et de quoi donc se permet-on d'extraire d'abord l'embryon de ces nidifications ou de ces lieux de croissance, la gestation dans le sein d'une mère, et ensuite de l'éliminer quand on veut, c'est un crime.
Mais ça devient très difficile parce que vous appelez à de nombreuses reprises dans ce document à une écoute respectueuse des personnes en désir d'enfant ou souffrant d'infertilité. Mais en même temps, c'est vrai que l'Église, condamnant toutes ces techniques de procréation artificielle, n'apporte pas une réponse, elle apporte une écoute, mais pas une réponse.
C'est exact. On offre un accompagnement par rapport aux personnes qui ont ces difficultés et en les encourageant à faire jouer les techniques qui sont compatibles avec notre foi médicale en particulier pour éviter l'infertilité ou veiller des périodes fertiles, etc. Mais que quand il n'y a pas de possibilité pour des époux d'avoir d'enfants, ça, on oriente vers l'adoption. Évidemment, c'est un pis-aller pour dire. Mais en même temps, comme moi j'ai entendu à plusieurs reprises et je connais des cas où des parents n'ayant pas de fertilité ont adopté des enfants et puis et quelques temps après ils ont eu des enfants. On connaît tous des cas comme ça. Mm-hmm. Donc il ne faut jamais désespérer. Et moi, ici sur Toulouse, on a aussi, il ne faut pas avoir peur de prier. Et quand à la dorade, il y a la Vierge, on donne le cordon. Le cordon, et c'est, moi je connais
c'est
plusieurs cas
oui.
c'est pas la seule raison ou la seule manière d'avoir des enfants, mais ça compte aussi, je crois. Et non, c'est utiliser tout ce qui est possible, et de même, on peut aussi utiliser des cellules embryonnaires, mais pas des cellules souches. Il y a des différentes parties du corps qui permettent d'avoir des cellules embryonnaires. Ça, nous n'avons pas de difficulté. Mais c'est l'embryon lui-même. Alors, l'utiliser l'embryon pour des fins, c'est pas seulement quelquefois des fins d'avoir des enfants, mais c'est pour des questions de cosmétiques, cosmétiques même. C'est inacceptable.
Très bien. Merci pour cet appel ferme, Monseigneur. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une quatrième et dernière mission sur ce sujet de la bioéthique.
Rencontre avec nos évêques.